Roche sous les yeux, l'émission.
Eh bien, bienvenue dans Des Poches, l'émission. C'est la dernière de la saison 4. Quoi, la dernière? Calmos, de la saison 4 hein, seulement. Car dès fin septembre, vous pourrez retrouver la fine équipe dans la toute nouvelle saison 5. D'ici là, le mercato va être terrible. Hein. Quelques chroniqueuses vont nous quitter, peut-être. Hein. Puis des nouvelles recrues, peut-être aussi. Voilà. Hein. Serais-je encore là, fidèle, doublure de Vince? Et toi, Véro, trouveras-tu enfin quelqu'un pour te remplacer? Ah, vous le saurez tous, ça, à la rentrée. Mais d'ici là, profitons de cette dernière émission. Nous sommes aujourd'hui en direct de la guinguette de Tours, The Guinguette, hein, celle que tout le monde nous envie. Et on commence avec Ronan Briand, bonjour.
Bonjour.
The Big Boss historique de la guinguette. Alors, la guinguette, ça fait combien de temps, Ronan?
La guinguette, ça commence à dater, hein, ça fait 25 ans.
25 ans
2004.
2004. Et c'est toujours enthousiasmant ou ça devient une corvée à force?
C'est toujours enthousiasmant, il y a toujours plein de choses à faire, il y a aussi des inerties qui arrivent.
Il faut dire que c'est un peu comme une maladie, vie, hein. Enfin, dans du lichen, hein, le concept se développe, hein, il y a donc la guinguette principale, il y a le foudre chez Dupont, la plage, et puis dernièrement des guinguettes en ville aussi.
C'est-à-dire?
Au Sanitas.
Au Sanitas, au Beaumont, des guinguettes, on peut pas dire vraiment les guinguettes, mais Tours-sur-Loire, ça devient une manière de programmer qui est hors des formats courts. Et puis on s'installe sur un temps beaucoup plus long, les 5 mois de saison. Et là, ça fait des émules, c'est principalement en termes de communication que Tours-sur-Loire devient un peu plus global, oui.
Et puis il y a aussi des guinguettes concurrentes, hein. Il y a le comptoir des arts qui a ouvert il y a pas très longtemps, pas très loin d'ici.
Ah mais nous on est très contents que ça fasse des émules et des petits, et plus il y en aura et mieux ce sera.
Qu'est-ce qu'ils disent les cafetiers de la place là? Ils sont pas énervés par cette mainmise du petit monde sur la boisson estivale?
Ils sont très énervés.
De base.
Mais ils arrivent ici. Et là, ils fondent leur cœur et ils rentrent comme nous tous, on fait corps autour du peuple de Loire. Et voilà, tous les soucis s'en vont avec le fleuve qui les balaye.
Alors, la guinguette, hein, Tours-sur-Loire, hein, c'est à la fois une programmation culturelle, des bars, de la restauration. Tout ça, c'est pas géré par la même structure juridique?
Alors, il y a deux structures. La première, tout le monde la connaît, c'est le Petit Monde. Nous étions une association dans les bois de Chambray. On a croisé un élu qui est venu nous chercher là-bas. Et petit à petit, tout s'est développé et il a fallu rentrer dans les cases. Et donc, il y avait un chiffre qui dépassait... Le chiffre du bar commençait à faire plus que le chiffre de la programmation. Donc, il y a une deuxième structure qui s'est créée sur demande des institutions. Et à bien y penser, on aurait dû rester assaut depuis le départ. Mais oui, depuis 20 ans, il y a une bicéphalité avec une société commerciale qui gère les bars et restaurants et une association qui gère la programmation qui va beaucoup plus loin qu'une programmation. Nous, on a une approche plus globale du public. Donc, c'est aussi tous les ateliers, c'est... Les activités pour les mômes, c'est prendre le public dans... Le but, c'est la rencontre, c'est de faire peuple. On aime bien l'idée du peuple de Loire aujourd'hui.
Alors, qui est-ce qui répond aux appels d'offres? C'est le Petit Monde? C'est Quanti?
Alors, les appels d'offres, il y en a... Ils sont de diverses formes. Le dernier, c'est une DSP, donc une délégation de services publics. Et qui nous pose un peu dans une situation...
Le coucou de la guinguette nous réveille.
Je suis fan du coucou, moi. Et donc, cette année, depuis l'an dernier, et pour 6 ans, c'est une DSP, délégation de services publics, qui cadre beaucoup plus notre action, qui contractualise un peu tout. Et c'est donc un groupement solidaire composé du Petit Monde... Et de Quanti, la société, qui répond, et on répond ensemble.
Mais ça veut dire que vous pourriez être remplacé à la fin de la DSP, quoi. Ça reste précaire.
Ça reste extrêmement précaire, sans aucune... Parce qu'il y a une société, mais il n'y a pas de fonds de commerce. Donc nous, demain, c'est fini, on ne voit rien. On remballe nos boîtes. Et puis voilà. Et oui, ça aurait pu changer l'an dernier avec des... On a été un peu étonnés, mais oui, on a eu de la concurrence très très locale. Et on aurait pu, ça aurait pu changer. C'est le principe en même temps. Je pense qu'il y a encore possibilité d'évoluer dans l'utilisation de l'espace public. Il y a la loi Pinel, il y a des tas de lois, mais c'est pas parfait, mais on vit avec les saisons et avec l'espace public.
Alors, on entend souvent parler de la difficulté de d'embaucher dans le domaine de la restauration, des bars.
Ah, nous, on n'a aucun problème pour embaucher.
Vous avez tous les salariés que vous voulez.
On dit non à beaucoup de monde.
C'est parce que vous êtes hyper généreux, que vous payez super bien ?
Entre autres. Non, c'est aussi c'est une vraie expérience. C'est l'expérience de saisonnier avec un public énorme. On rencontre beaucoup de monde. Et la vie à l'interne, c'est vrai qu'elle est chouette. On a toujours, c'est le principe du petit monde. Il y a une famille qui se crée chaque année et ça fait du bien. Il y a beaucoup de monde qui revient et il y a beaucoup de monde qui veut travailler là.
Gérer comme ça des lieux centre-ville, des lieux où on boit pas mal, ça génère des problèmes de sécurité, de police. C'est prenant ça comme aspect.
Bah nous, on est super contents des quais parce qu'il y a peu d'interventions de police dans la mesure où ils doivent sécuriser tous les accès pour ne pas se retrouver dans un goulet. Et sur les quais, et depuis 20 ans, on a un public qui se modère lui-même. Et c'est vraiment intéressant. On est arrivé, on n'a jamais fait d'exclusion de qui que ce soit. Et finalement, ça se régule beaucoup mieux... un public se régule beaucoup mieux sur lui-même qu'avec des interventions trop nombreuses et trop musclées. On a peu de gros problèmes ici.
Donc tu as dit 25 ans, ça veut dire que tu en as vu passer des équipes municipales.
J'en ai vu passer.
Laquelle était la plus prise de tête ?
Bon, il n'y a pas de prise de tête, il y a des avantages, des inconvénients... Pour tous, mais oui, on a vu les divers courants politiques, et oui, chacun a une vision, et chacun, nous en tant qu'acteurs, on a nos convictions, c'est sûr, mais travailler avec, c'est autre chose. Et sur le travail avec, non, des avantages et des inconvénients dans toutes les équipes. Ouais.
L'équipe actuelle me semble celle qui a essayé ou qui essaye d'imposer le plus de contraintes, non ? En tout cas, qui veut avoir un...
Bah, on pourrait marque. Le vivre comme ça, et en même temps, on travaille sur la notion de peuple, la connexion au vivant, le monde tel qu'il est aujourd'hui. Bah, on a une équipe qui est sur cette priorité et puis qui fait pas de concessions sur cette priorité. Et pour nous, c'est intéressant, ça permet de pousser... notre travail beaucoup plus loin, et effectivement ils vont demander des critères d'évaluation là où nous on a toujours été un peu en live à parler avec le public, et quand on rentre dans des machines où il faut tout évaluer, c'est un peu compliqué. Néanmoins, l'équipe actuelle, elle est très mobilisée sur notre volonté de départ qui est d'aller vers l'évidence et puis vers l'enjeu. Et aujourd'hui, il me semble que l'équipe actuelle est sur les bons enjeux. Ce qui ne veut pas dire qu'une autre ne le serait pas, mais là, c'est affiché politiquement de sauver ce qui reste de la planète. Non, on est des cellules et la planète, c'est un gros corps. Nous, on aime bien ce principe-là, se positionner comme une cellule d'un grand corps. Et si les cellules dans notre corps faisaient pareil que nous autres humains, on serait sacrément malades tous, sauf qu'on est. On aime bien le principe de... On aime bien cette réflexion, ce guide.
C'est l'équipe actuelle qui vous a imposé, obligé à sortir des bords de Loire pour aller en ville. Finalement, c'est quoi le retour d'expérience sur les implantations Sanitas Beaumont ?
Nous ne sommes pas implantés au Sanitas Beaumont, c'est une création d'un réseau. Et le problème, c'est qu'il y a pu avoir confusion de registres, à savoir que là, nous, on ne veut pas être partout et tout faire. C'est très très bien qu'il y ait des nouveaux lieux qui se développent, et c'est très bien qu'ils soient en réseau. Et donc là, l'idée, c'était d'avoir une identité territoriale, un territoire qui va programmer sur 5 mois, vivre avec la saison, sur la base d'un réseau d'acteurs qui s'entendent bien. Maintenant, là, est-ce que la réalité, elle n'est pas plus complexe que ce que je viens de dire ? Je pense que si.
Bon, il y a une programmation culturelle, hein, c'est pas toi le programmateur, on est d'accord. Quelles sont les grandes prochaines dates qui seraient à retenir ?
Le festival, on a structuré beaucoup mieux la prog, et la prog, elle est faite par un comité de prog qui réunit diverses personnes. Moi, historiquement, c'est vrai que je suis plus sur l'interaction personne-milieu, proposer un lieu qui rende bien, qui amuse, qui fasse qu'on se rencontre. Concernant la prog, elle est structurée sur 5 à 7 axes chaque année. Et là, il y a la date du Festival Peuple de Loire. Il y a 3 dates dans l'été. Et elle arrive le week-end prochain avec projection de films, Nausicaa, le magnifique Miyazaki. De la musique, Métro Combo, qui font aussi vivre le lien à leur propre fleuve. Chorégraphie et paysage, Texeré, vraiment excellent. Un beau voyage, une bulle, c'est très beau, très fragile, c'est superbe. Et le samedi soir, le cabaret du Peuple de Loire, pour ceux qui ont vécu le dernier, on a bien rigolé. Faut vraiment venir, c'est vraiment drôle. Ce soir, vous avez Sababa 5.
Yes.
Qu'on va pouvoir écouter peut-être, c'est ça ?
En pause musicale, juste après, oui. Et puis le 3 juillet, il y a le Béton va faire foutre, puisque la radio Béton intervient aux foudres.
La date centrale qu'il faut retenir, c'est Béton va se faire foudre, évidemment.
Bon, et avec tout ça, t'as le temps de lire ou pas du tout, là ?
C'est se concentrer sur là où on est bon pour le public, et puis rester c'est comme un corps vivant, hein, toute cette machine là, c'est énorme, c'est devenu une équipe énorme. Donc le temps de vivre, oui,
le temps de lire, l'exercice et de lire, ma vie, oui. Et de lire.
J'aime beaucoup lire.
Oui. Ouais. Bon.
Et je trouve le format de votre émission superbe.
Bon. Eh ben merci Ronan, et comme promis et comme tu l'as annoncé, on va se faire une pause guinguette, une pause Tour sur Loire, avec Sababa 5 qui sera sur la scène de la guinguette ce soir, voilà, et on écoute Malka. We'll be right back. Voilà, c'était Sababa 5, Sababa 5, un groupe turc que vous pourrez retrouver ce soir sur la scène de la Guinguette. Mais pour l'heure, c'est l'heure de la pastille Fab Caro, une mise en onde de Daniel et Pascal qui s'ennuyaient pendant le confinement et qui ont trouvé cette activité. Fab Caro, on est bientôt à court de vos pastilles. Hein. Il faudra un nouveau confinement, je crois, mais on va écouter Détraqué tout de suite.
Alors pour la garde alternée de Théo, j'ai réfléchi et j'ai fait un planning. Je le prends le lundi de 10h30 à 14h50. Toi, de 14h50 à 23h. Mmh. Moi, de 23h à mardi matin 5h. Mmh. Toi, de 5h à 13h15. Moi, de 13h15 à 17h45.
Okay.
Toi, de 17h45 à minuit. À minuit, je le prends jusqu'à 7h30. Puis toi, de 7h30 à 11h15.
Alors, le mercredi à 7h30, ça m'arrange moyen. On pourrait pas plutôt dire 8h15 ?
Tu veux vraiment détraquer ce gamin ?
Voilà, c'était Daniel et Pascal, la pastille de Fab Caro. Daniel, d'ailleurs, Daniel, c'est ton tour. Daniel, l'animateur de Quand le Tchador les souris dansent. Et tu nous fais une chronique orientale.
Oui, parce que je profite comme ça, je cumule, tu vois. Une chronique orientale, je ne sais pas. Mais l'actu me laisse le choix quand même des sujets à traiter, comme si j'étais un journaliste de l'extrême. J'ai deux chroniques au départ d'inspiration trumpiste. Alors, soit le Groenland, avec la BD de Tancrel, soit l'Iran. Ah ouais. Pile, c'est l'Iran. Face, c'est l'Iran. Bon, ce sera l'Iran, donc. Une bande dessinée. C'est une bande dessinée, un manifeste, un documentaire, un livre d'histoire, un objet graphique. Ça s'appelle « Femmes, vie et liberté ». C'est tout ça à la fois. Le titre « Femmes, vie, liberté », ça vous dit quelque chose ou pas ? Non. Ok. Ça peut paraître un peu enfantin. En farsi, c'est « Jin Jiyan Azadi ». Je parle l'arabe, mais le farsi, c'est un slogan en fait. C'est un cri de guerre des bataillons du PKK, les milices de femmes kurdes.
Ouais.
Vous vous souvenez de ça là ?
Ouais.
Qui avaient construit un laboratoire de démocratie directe et qui ont pris les larmes et les armes pour lutter contre l'État islamique. Je sais, j'ai vu le Bureau des légendes ou un autre truc.
Enfin, bon. Il y a un autre truc aussi, où il y a le PKK qui intervient.
C'est ça, il y a un autre truc. Voilà.
Qui est passé sur Arte il n'y a pas longtemps là. Ouais,
et ça. Donc, l'ouvrage en question, Femmes, vie et liberté, il a été publié dans plusieurs pays et surtout, il est accessible gratuitement en ligne, en persan, pour tous les Iraniens, pour toutes les Iraniennes, sous la conjugaison de Marjane Satrapi et son éditrice Alba Bekarer. Satrapi, on la connaît. Enfin, ouais, vous la connaissez, vous savez quand même. Elle est connue, elle avait signé une grande série de BD aux éditions de l'association, ça s'appelait Persepolis. Oui. Et ça a été décliné en long métrage, ça retraçait un peu sa vie lorsqu'elle était enfant à Téhéran. Et depuis 2022, elle se consacre corps et âme à la résistance au régime du Démollah, parce qu'ils sont plein. Le manifeste du livre, il est simple, et là je cite à peu près, mais pas très très bien, à peu près, Marjane Satrapi. 1. Décrypter ce qui se passe en Iran aujourd'hui, c'est pas rendre compte d'une complexité que nous, non-iraniens, non-iraniennes, et non au fait de la société iranienne, ne comprenons pas. Et donner aussi un signe aux Iraniens et aux Iraniennes pour leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Bon, même si pour elle, l'oligarchie politique n'est pas intéressée, elle préfère pour l'instant les gesticulations mortifères de ses armées régulières, mais bon. Donc, et pour preuve qu'elle veut montrer que la société civile européenne est engagée à leur côté, l'équipe du collectif d'auteurs regroupe environ une vingtaine de dessinateurs. Il y en a un qui n'est pas très loin d'ici, qui s'appelle Rabaté, il y a Winchlus, Lévi-Strondheim, Sfar, pour les plus connus, et Jean-Pierre Perrin, un vrai collaborateur de Mediapart, Farid Wahid, spécialiste de l'Iran, et Abbas Milani, qui est directeur des Iranian Studies et prof à Stanford. Alors, en général, moi, je me méfie des ouvrages collectifs parce que jusqu'à présent, ils ne m'ont pas vraiment convaincu. Mais là, alors, quand même, je dis vraiment banco, tant l'alchimie est quand même bien réussie. On a associé pour chaque séquence des spécialistes de l'Iran, issus de la diaspora iranienne, et de l'intelligentsia résistance, à une vingtaine de dessinateurs de bandes dessinées pour décrypter une situation bien complexe dans une démarche de médiation pour les nuls, dont je fais partie. Tout s'éclaire. D'ailleurs, par exemple, j'ai appris, je ne savais pas, que j'ai appris plein de choses, que dans la culture perse, zoroastrienne, ça vous parle ça, le zoroastrien?
Ah oui, un dieu, il y a très longtemps avec des ailes, tout ça.
Ouais, culture Our, du feu,
ça, oui.
C'est ça. Elle est, et cette culture de feu, même si on est en islam depuis bien longtemps, elle est toujours présente. Et c'est pour ça que parfois, enfin souvent, dans les révolutions et en Iran, les gens brûlent des trucs. C'est ce qu'elle a dit, la dame.
D'accord.
Et oui, parce que la lumière, c'est le bonheur, alors que c'est l'antithèse pour elle de la République islamique. Bon.
Et Zoroastre avec Nietzsche, c'est quoi le rapport? Ah non, c'est Zarathoustra. Oui, excuse-moi.
C'est un Z aussi, tu as raison.
D'accord, okay.
Mais ça n'a rien à voir. Mais c'est pas grave. Je te remercie d'être intervenu. Bon, alors. Non, je déconne. Ça va. Alors, la première. Comment c'est goupillé cette histoire? Première partie nous transporte donc de la mort de Amini jusqu'au pendaison sommaire des opposants, en passant par l'empoisonnement, ça on a oublié, des écolières qui avaient défié le pouvoir, mais à leur petite échelle. Il y a eu toute une série d'empoisonnements d'écolières iraniennes qui sont mortes. Elles ont été empoisonnées par les pasdaran, les gardiens de la révolution. Donc ça retrace au départ, point par point, toute la chronologie des faits de révolte déclenchée par la mort de Mahsan Amini, qui, je rappelle, en fait, avait juste laissé passer une mèche de cheveux de son tchador. Et elle a été arrêtée, molestée, embarquée, tuée dans un commissariat. Et sûrement par les gardiens de la révolution, c'était en 2022, 16 septembre. Et depuis, on a une révolte qui bruisse dans tout le pays pour défier la théocratie qui est mise en place depuis 1979, année de la révolution iranienne qui renversa le Shah d'Iran, pour instaurer une république islamique. République islamique, c'est quand même un oxymore chiite assez... C'est étonnant quand même. Et avec l'ayatollah Khomeini qui était chez nous, ici à Neuf-le-Château.
Oui.
Hein? Oui. Référence à Trust, tu te souviens?
Oui, je me rappelle tout à fait, ouais.
Oui, je parle là-dessus, c'est bien.
Un réfugié politique.
Oui, il était bien fait, dans un beau château.
Ouais.
Alors ensuite, deuxième partie, on a une belle leçon d'histoire, bien concise, pour camper le décor et comprendre l'influence russe, américaine, soviétique. Il y a eu une petite république soviétique en Iran dans les années 20. Je ne savais pas. L'arrivée du pétrole au service des mollahs et surtout des apparatchiks du cercle des gardiens de la révolution, puisqu'il y a une belle jeunesse dorée. Et on finit par l'art de la révolte et une série d'opposants qui payent ou qui ont payé de leur vie la défiance au régime en place qui ne tient pas et qui tient surtout par la mainmise des gardiens de la Révolution. C'est une milice ultra puissante. J'ai noté 400 000 tortionnaires, mais je crois que je ne connais pas bien les chiffres. Au service du guide suprême, c'est l'ayatollah Khamenei, le successeur de Khomeini, qui mène la danse macabre en compagnie de ses serviteurs, Zélé. Et Zélé, c'est le président de la République, qui ne sert pas à grand-chose, et le Conseil national, qui est au service de l'ayatollah. Tout ça est bien documenté dans cet ouvrage. Enquisté, et on a un ruissellement qui abreuve essentiellement la jeunesse dorée qui n'a rien à envier à l'oligarchie et les jeunesses dorées de tous les pays. Je ne pensais pas. L'objet, en plus, est magnifique. Aux couleurs de l'Iran, mise en page réussie, 192 planches avec des doubles pages à couper le souffle, dont Winchlous et Satrapi, qui ne dessine plus depuis une dizaine d'années. Mais qui fait un focus sur les pasdaran, ces gardiens de la révolution qui tiennent en fait tout le régime. Bon, alors, si vous êtes sensible à l'injustice, bah ouais, à la répression et à la violence incontrôlée, alors allez-y, vous pouvez lire le livre de Marjane Satrapi.
Ah, ça donne envie, hein.
Oui, c'est bien.
Hein. Eh ben, merci Daniel, c'est l'heure de l'interview et on va retrouver Clément Osé. Clément Osé, que j'avais déjà interviewé pour... un de ses bouquins qui s'appelait Plutôt Nourrir, et là qui revient avec Les Marchands de Soleil. Clément Osé, bonjour.
Bonjour.
Radio Béton te reçoit aujourd'hui pour ton récit Les Marchands de Soleil, paru aux éditions Tana, un livre coécrit avec Sylvie Bitterlin. On t'avait déjà reçu pour ton premier livre Plutôt Nourrir, déjà écrit à quatre mains. En fait, tu aimes cet exercice de récit partagé?
Oui, carrément. Alors, encore avant Plutôt Nourrir, j'avais écrit un livre plutôt autobiographique, et c'est vrai que j'étais, je crois, un peu mal à l'aise avec l'idée de raconter ma vie, et ça me va plutôt bien de raconter la vie de quelqu'un, d'autant plus quand c'est quelqu'un qui m'inspire. Et donc là, c'est le cas de Noémie dans le premier, et puis de Sylvie dans le deuxième. Hein, donc j'ai un peu réappliqué le même format, la même recette à ce dernier livre, là, Les Marchands de Soleil.
Alors, la trame de ce livre, hein, c'est le récit d'une lutte contre l'implantation d'une centrale photovoltaïque en pleine forêt dans le massif de Lure, hein, dans les Alpes de Haute-Provence, le pays de Giono. Comment as-tu rencontré Sylvie Peterlin, cette militante ?
Alors en fait, elle avait écouté une série de podcasts que j'avais enregistrés sur une ferme collective où je vivais. Elle avait trouvé ça très chouette, elle m'avait envoyé un mail et puis elle m'avait aussi dit que j'avais des problèmes de diction. Et elle m'a tendu la perche en me disant qu'elle était comédienne et qu'elle organisait des stages de lecture à voix haute. Et donc j'étais chez elle pendant 3 jours dans les Alpes de Haute-Provence et j'ai appris à lire à 30 ans grâce à elle. Voilà comment on s'est rencontrés. Et puis suite au stage, je me suis abonné à une lettre d'info qu'elle envoyait, LZR, Lure en résistance. LZR, ça fait référence à un personnage de Giono, justement, l'homme qui plantait des arbres. Et donc en fait, ce collectif, il s'opposait à la construction de centrales photovoltaïques dans sa montagne. Et donc moi, je suis passé de Sylvie nous fait un stage de lecture à voix haute et avec de la méditation à Sylvie bloque des bulldozers. Et je me suis demandé ce qui s'était passé dans sa vie pour qu'elle en arrive là. Et j'aime plutôt bien en fait commencer un livre en me posant une question, en me disant tiens, c'est étrange, ce que cette personne fait. Et puis après derrière, je comprends quoi.
Alors tu proposes un récit des coulisses d'une lutte, hein, avec ses choix stratégiques, les clans, avec des textes écrits par Sylvie, et qui n'était pas une militante activiste pro.
Oui, c'est une primo-militante, hein. Elle a vraiment, elle s'est engagée parce que la centrale en question, là, qu'on documente le plus dans le livre, elle était en face de chez elle. Donc elle a une réaction viscérale au début, comme beaucoup de collectifs d'habitants qui se créent. Et puis après, l'idée du livre, c'était d'avoir une pensée plus systémique sur ces énergies dites renouvelables, d'aller plus loin, quoi. Il y a un premier abord qui est assez choquant, de se dire on rase une forêt pour installer des énergies vertes. Ça paraît complètement contradictoire. Et voilà, on voulait creuser un peu le sujet. Donc partir de la vie de Sylvie, parce que moi dans ce que j'écris, c'est toujours beaucoup d'images, beaucoup de narrations, donc ça se lit comme un roman, comme un polar. Donc on part de sa vie, de son quotidien, et puis quand même au fil des pages, on apporte des éléments de réflexion, donc ça veut dire que derrière nous on a fait beaucoup de recherches, qu'on a bouquiné, qu'on a lu des études, etc. Et que la réflexion qui est amenée par la narration, elle est aussi étayée comme un essai, quoi.
Et c'est une histoire que tu as suivie de près, tu as fait des allers-retours.
Oui, carrément. Alors moi, ma façon d'écrire, c'est qu'il y a toujours une phase de reportage, parce que donc le genre, ça s'appelle la littérature du réel. En gros, c'est raconter la réalité, mais de manière en empruntant les codes du roman. Et donc, j'ai toujours une phase de reportage là qui a duré entre 6 mois et 1 an. Et puis après la phase de reportage où donc je vais sur place, je rencontre la personne, c'est vraiment une immersion que je fais vivre aussi à travers le livre puisque je mets en scène mon personnage à moi et donc qui découvre le sujet, etc. Et puis après il y a la phase de rédaction, elle qui est un peu plus rapide et plus dense.
Et tu profites donc de ce récit pour t'interroger sur la production d'électricité à partir de ces champs photovoltaïques. C'est pourtant une bonne idée, cette énergie renouvelable, non?
Alors moi, je suis arrivé là-dedans en me disant « Mais les renouvelables, c'est super, quoi. Pourquoi est-ce que Sylvie allait vent debout contre ces trucs-là » Parce que moi, je me disais « C'est bien dommage qu'on investisse autant d'argent dans le fossile et le nucléaire alors qu'il y a ces énergies infinies qui nous tendent les bras. » Et puis, c'est vrai que j'ai compris son combat. Et puis, ça m'a amené à développer une pensée critique sur ces énergies qu'on appelle renouvelables, mais qui, en réalité, sont pas vraiment renouvelables. Puisque si on différencie la source de l'énergie, qui est en l'occurrence pour le photovoltaïque, c'est le soleil, on peut considérer qu'elle est infinie à l'échelle de l'humanité. Par contre, les infrastructures techniques pour capter cette énergie solaire, elles sont pas du tout renouvelables puisque elles dépendent de métaux notamment et de métaux qui existent sur Terre en quantité limitée et pour certains, type le cuivre, où on a des ressources qui sont très limitées. On parle de 40 ans au rythme de consommation actuel, quoi. Donc en fait, ces énergies-là vont pas durer très très longtemps, quoi.
Et surtout en détruisant des forêts, quoi. Le capitalisme est donc capable de détourner toutes les bonnes idées.
Oui, complètement. Bah, c'est une aubaine, hein, le réchauffement climatique, je pense, pour le capitalisme. Donc là, on a fait un livre là-dessus. C'est un sujet relativement nouveau, mais en même temps, c'est pas un nouveau sujet parce que c'est une énième manifestation de la prédation de l'économie de marché où là, on fait main basse sur des espaces naturels et puis aussi agricoles, parce que ça se fait beaucoup dans les champs. Chez nous, en Touraine, c'est plutôt dans les champs que ça se passe. En utilisant la précarité soit des agriculteurs, soit des petites communes, parce qu'en fait, les industriels, ce qu'ils cherchent, c'est de la surface pour pouvoir faire les projets les plus gros possibles avec la rentabilité la plus rapide possible. Rentabilité qui est directement dépendante des aides de l'État, puisque il y a des prix de rachat de l'électricité qui sont garantis, donc par nos impôts. Et c'est ça qui fait en fait un appel d'air énorme, quoi. Sans ces garanties-là, c'est pas dit qu'il y aurait un engouement tel pour la filière.
Ouais, tu en parles de cet agrovoltaïsme là qui consiste donc à transformer ces champs en champs de panneaux solaires, quoi.
Oui, voilà, et en argumentant qu'il y a une synergie entre l'activité agricole et la production d'électricité, que ça va permettre d'apporter de l'ombre et donc des microclimats l'été quand il y a trop de soleil, que pour le bien-être animal, c'est pareil, c'est bénéfique parce que les moutons vont pouvoir s'abriter, qu'il y a plein de synergies qui en fait ne sont pas du tout démontrées par les études sérieuses et indépendantes. On se rend compte que les rendements agricoles baissent sous ces panneaux-là, que au niveau bien-être animal, c'est pareil, il y a eu des observations cas de stérilité, de comportement étrange des animaux qui sont aussi sensibles aux ondes électromagnétiques. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ce qui a été avancé par les promoteurs de cet agrivoltaïsme. Et puis en plus, c'est un grand risque pour le monde paysan, puisque il va y avoir des effets sur le prix du foncier agricole. Que ça va être aussi plus difficile pour l'installation de jeunes paysans, parce que quand on est propriétaire foncier et qu'on a le choix entre un fermage à un jeune qui s'installe et le loyer des producteurs d'électricité qui est 20 ou 30 fois plus important, c'est clair que ça fait envie. Puis c'est encore une dépendance de plus pour l'agriculture, alors que franchement, elle n'a pas besoin d'être rendue plus dépendante, mais plutôt plus résiliente.
Voilà, mais c'est une hérésie, certes, mais elle n'est pas si différente que de produire intensivement du maïs à l'aide de mégabassines pour produire l'éthanol de l'essence E10 de notre bagnole.
Ouais, c'est tout de suite ce que les commerciaux photovoltaïques ils mettent en avant, quoi. C'est que, en fait, c'est moins pire que telle autre solution. Mais est-ce qu'on est dans une, parce qu'ils, quand même, ils se revendiquent de l'écologie. Donc, est-ce qu'on est dans une écologie du moins pire ou dans une écologie du mieux, quoi? Pour moi, ce qui est écologique, c'est ce qui contribue au bien-être des écosystèmes. Dans le maïs pour éthanol ou dans le photovoltaïque, dans les deux cas, on a un effet délétère sur la biodiversité et l'écologie. Quand ils disent oui, pour la même quantité d'électricité produite, c'est plus intéressant de la produire de cette façon-là ou de cette façon-là. Oui, mais enfin, dans tous les cas, ça va avoir une fin assez proche et ça entame la biodiversité qui est notre meilleur allié pour faire face au cataclysme qu'on va vivre à l'avenir, quoi.
Bon, Clément Osé, toi qui as fait Sciences Po, là, on fait quoi alors? Vive le nucléaire et welcome aux EPR2?
Ah là là, dis donc, on va être notre livre, il va être détourné. Non, on est très clair, hein, nous, sur la position. On n'est ni pro-fossile, ni pro-nucléaire. La réponse, elle réside dans un mot qu'on connaît déjà, ça s'appelle la sobriété. Après, jusqu'à quel niveau de sobriété il faut aller? Nous, on propose un truc dans le livre, c'est qu'on commence la réflexion, non pas en disant, comme Georges Bush père, notre mode de vie n'est pas négociable, mais qu'on se dise plutôt, les conditions d'habitabilité de la Terre ne sont pas négociables. Moi, dans mon monde idéal, on a une société qui est réellement démocratique, avec des décisions qui se prennent pas au niveau national, mais plutôt localement, et puis on se met autour de la table, on essaie de réfléchir à ce qu'il faudra faire, en fait, pour atteindre cet enjeu-là, quoi.
Eh ben, merci Clément pour tout cet optimisme.
Merci beaucoup pour l'invitation et puis bonne journée.
Salut Clément.
Salut Pascal.
Voilà, une interview que vous pourrez retrouver en intégralité, hein, c'est qu'un extrait, sur le site de podcast des Poches sous les yeux. Et en attendant, on va se faire une petite pause musicale, une pause Tchégué. Voilà, parce que sur Au quart de tour, ça a vraiment été une belle soirée. Prête à revivre ce bon moment ? Tchégué sur la radio béton, dans des poches, sous les yeux, l'émission. Et on va rester en Afrique avec Oka Wango. Ça vous dit quelque chose, hein ? L'Afrique, par exemple, c'est un fleuve africain, mais c'est aussi un polar. Et c'est Jimmy qui nous en parle.
Oui, alors justement, ça tombe bien. Tchégué, c'est peut-être pas une mauvaise idée pour illustrer ma chronique, parce que j'arrivais pas à trouver un son qui allait bien pour voilà, j'ai essayé des différents trucs, j'avais essayé Dienvort, tu vois, mais ça colle pas. Enfin, tu vois un truc non. Tchégué, c'est peut-être pas mal, ouais. Pour Oka Wango, donc le bouquin de Karel Ferré qui vient de sortir en poche. Un bouquin pour rugir de plaisir. Ouais, bon, d'accord. Bon, nous voici de retour en Afrique subsaharienne, mais pas en Afrique du Sud comme pour Zulu, hein. Il avait déjà fait un bouquin qui s'appelait Zulu, qui s'est passé en Afrique du Sud. Nous sommes ici en Namibie, une région dont la stabilité politique est assez précaire, hein, comme beaucoup de pays d'Afrique. Les traces laissées par la décolonisation et les jeux d'influence des pays limitrophes sont encore quand même très, 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 très présentes, et l'équilibre est pour le moins instable. Sans parler des cohabitations ethniques, parce que je me suis quand même documenté un petit peu, il y a une dizaine de langues parlées, une vingtaine de dialectes ethniques. Ça fait quand même du monde, quoi. Ça veut dire qu'il y a un tas de gens qui cohabitent les uns les autres avec plus ou moins de bonheur. La guerre de décolonisation d'Angola, qui est juste à côté, la guerre de décolonisation Angola, donc, dans laquelle se sont engagés les pays limitrophes, les pays frontaliers, a laissé quelques belles cicatrices dans la région. Cette guerre de décolonisation en Angola se termine en 1975, hein, avec l'avènement d'un gouvernement à tendance socialiste. Mais la chute de ce régime en 1979 débouche sur une guerre civile. Bref, ça donne une région hautement instable, sans compter les ressources minières qui attisent bien sûr les appétits des voisins frontaliers. Faut pas oublier que juste à côté, il y a l'Afrique du Sud. Hein, voilà. Donc un très beau terrain de jeu pour les forces en présence avec les trafics en tout genre pour financer ces conflits armés et aussi les enrichissements personnels. Hein. La corruption à grande échelle, y va bon train. Dorénavant, l'heure est à la préservation d'une faune qui a grandement fait les frais de ces conflits, en tant que victime collatérale, comme ressource de trafic juteux pour financer la guerre. Depuis la fin de la guerre, cette faune voit ses espaces de vie se réduire, comme une mare au soleil. C'est pas mal, hein, comme une mare au soleil, il fait chaud là-bas. Voilà. Bon, bref. Donc les girafes, les lions, les éléphants, les rhinos, etc., tout comme les sapiens sapiens, hein, sont des rescapés de ces conflits, voire même un peu plus, très nettement plus. Voilà pour le contexte. Karel Ferré nous mène sur ces territoires à la beauté sauvage pour touristes plutôt aisés, à la recherche du contact d'une faune en voie de disparition. Le safari photo a supplanté le safari tout court, enfin pas tout à fait, mais presque quand même. Hein. Les réserves naturelles, qui initialement avaient été créées pour valoriser des territoires complètement impropres à l'agriculture, attirent désormais un tourisme de riches blancs qui vont remplir leur carte mémoire de leur smartphone. Avec des lions, des antilopes, etc. Enfin, voilà, ouais. Bon, ces grandes réserves animales pour la sauvegarde des espèces, donc, et pour le tourisme. De grandes réserves de chasse aussi. Parce que quand un État décide d'abattre quelques têtes pour rééquilibrer les espèces en présence dans le parc, ces trophées se négocient à prix d'or pour les chasseurs de gros gibiers fortunés. Alors, on ne parle pas non plus... Il y a aussi le braconnage hein, qui existe. Hein, que ce soit des populations locales pour la viande de brousse, pour bouffer, donc, hein. Et pour la corde de rhinocéros, pour les Asiatiques, à l'érection défaillante. Les bracos, les administrateurs, les rangers, la corruption. Voilà les ingrédients de cette enquête de brousse. La protection de la faune peut prendre différentes formes. Chacun sa méthode, chacun son histoire, chacun ses objectifs. Bon, c'est vrai que je raconte pas grand-chose, hein. Je vous ai pas raconté grand-chose de l'histoire, mais j'espère vous avoir donné l'envie de vous plonger dans ces grands espaces sauvages, très sauvages. Avec le style Karel Ferré, vous ne ferez qu'une bouchée de ce bouquin. Je reviens à rugir de plaisir. Hein. Ouais. Vous verrez que rien n'est noir, rien n'est blanc, sans aucun mauvais jeu de mots. J'ai eu un très grand plaisir à lire Okavango. Perso, ça fait partie du top 5 des romans de Karel Ferré. Ça reste un avis personnel, hein, mais j'ai eu grand plaisir à lire celui-là. De beaux personnages et la grande bataille finale décisive. Mais pour qui ? Okavango, Karel Ferré.
Eh bien, merci Jimmy. On a plusieurs moments contractuels sur des poches sous les yeux. L'émission, hein, parler de slip, ça c'est pour les chroniques d'Olivier, mais il n'est pas là aujourd'hui. Et parler d'un bouquin de Gaël Master. Et ça, c'est Nadia qui s'y colle.
Voilà, c'est pour moi. Alors dans notre tête... Il nous est tous arrivé de souhaiter la disparition d'un opportun, histoire de se débarrasser de la gêne occasionnée par le fâcheux. Mais pour certains, ce souhait est plus radical. C'est ce que nous raconte Peter Swanson dans son thriller « Ce qu'on tue chez Totem Gallmeister ». Il aura suffi, en apparence, de quelques imprévus, tels que le hasard et les circonstances peuvent occasionner, pour que s'enclenche une série de meurtres et disparitions. Pour Ted Sederson, tout a commencé par le retard de son vol pour Boston. En attendant, dans le salon VIP, il déguste un cocktail sophistiqué. Il a très bien réussi dans les affaires et pourrait se dispenser de poursuivre ses activités. Sa seule ombre au tableau, la tromperie de sa femme Miranda, qui s'envoie le chef de chantier qui construit leur maison. Mais voilà qu'une belle passagère entre dans le salon, Lily Kittner. Elle aussi, elle attend son avion pour Boston. Après quelques banalités et politesses, elle accepte de boire un verre avec Ted. L'alcool, le confort et le plaisir de la conversation les invitent à la confidence. Pourquoi ne pas jouer au jeu de la vérité, propose Lily. C'est tentant, puisqu'ils ne vont pas se revoir. Séduit par la jeune femme, Peut-être voilà l'occasion de prolonger agréablement cette délicieuse rencontre. Et puis finalement, cela lui fait du bien de se délester de sa colère vis-à-vis de sa femme, si belle et si superficielle, et d'avouer qu'il s'est fait avoir en l'épousant. La conversation et les drinks continuent pendant le vol, au point qu'il en vient à convenir de la nécessaire disparition de sa femme. Lily lui raconte qu'elle est déjà passée à l'acte. Voilà. Elle a tué un chat pour protéger sa chatte. Évidemment, c'est une métaphore, mais Ted ne le sait pas. Il se sent tellement bien avec Lily, quelqu'un qui l'écoute, qui le comprend, et tous deux ont en commun d'avoir été tellement sincères, généreux, amoureux. Pourquoi ont-ils été trahis, blessés et maltraités? Non, ils ne le méritaient pas, et oui, ils sont d'accord, la femme de Ted doit disparaître. Il serait juste que son amant en assume la responsabilité. Alors ils conviennent de se revoir. Ça y est, la mécanique est en marche, et chaque chapitre est l'occasion pour Peter Swanson de donner la parole aux différents personnages, principalement Peter et Lily, puis Miranda et le policier. Des flashbacks donnent à voir les petits arrangements avec la réalité des uns et des autres. L'approche psychologique est très subtile, surtout concernant Lily, et la dame ne manque pas de souffle, elle emporte le lecteur dans son épopée vengeresque. Bon, vous aurez compris, c'est un très très bon polar. Ça s'appelle Ce qu'on tue, de Peter Swanson, chez le merveilleux éditeur Totem Gallmeister.
Merci Nadia. Alors, oui mes amis, vous avez cru...
Oui, alors à propos d'éditeur, j'ai oublié de citer que Okavango de Karel Ferré, c'est édité chez Folio Policier, c'est quand même important de le dire. Hein.
Ah, moi aussi. Paf,
hein, voilà, c'est important.
J'ai oublié l'éditeur.
Vas-y Daniel.
On déconne. L'iconoclaste. Je vais à l'éditeur.
Ça manque de concentration hein, sur la guinguette.
Hein. Ah, il fait chaud. Hein. Oui.
Non, ça va.
Bon, mes amis, vous avez cru y échapper, mais non. La dernière de Despoches sous les yeux, l'émission se terminera bien par le 19e épisode de notre feuilleton radiophonique. La bourboule parano et le feuilleton n'est toujours pas fini. Hein. Rendez-vous en septembre avec le 20e épisode.
Vous connaissez la bourboule ? Eh ben vous avez tort, c'est là que j'ai connu Albert.
La bourboule parano. Le feuilleton, made in béton.
Avertissement. Dû à la pénurie de moyens, les nouveaux personnages sont interprétés par des acteurs ayant joué d'autres rôles précédemment. Ça pourrait porter à confusion, sauf que vous êtes des auditeurs bienveillants et super intelligents. Donc, no problemo. Et en plus, l'auteur de cet épisode a poussé le talent jusqu'à leur attribuer un langage qui leur est propre. Du grand art. Bon, je me disperse. Revenons-en au fait. Notre fine équipe est sacrément dans le pétrin. Dans le caca, disons-le carrément. En actionnant la chasse d'eau de la pétaudière, ils finissent prisonniers sur la galaxie Blorskluft. Ça, c'est déjà incroyable. Mais attendez, attendez, c'est pas fini. Et qui c'est-il qu'ils y rencontrent, hein? Le pape, peut-être? Ben non, le dieu du rock. J'ai nommé Johnny.
Ça alors ? Johnny ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Tout le monde vous croit mort ?
Mort ? Mais comment ça ?
Alors, si on se réfère à la définition donnée par l'Organisation Mondiale de la Santé, la mort se caractérise par la disparition irréversible de l'activité cérébrale mise en évidence par la perte des réflexes du tronc cérébral, justement. Ou plus généralement, par une rupture définitive dans la cohérence des processus vitaux de l'organisme qui...
Ouais, ouais c'est bon, c'est gentil. Oui, merci beaucoup le prez, mais ça va aller comme ça, hein. Mmh. Mmh.
Vous êtes censé être mort le 5 décembre 2017, chez vous, à Marne-la-Coquette.
Ben, je suis pas mort, puisque je suis là.
Depuis 6 ans ?
Non, depuis 2-3 jours.
Ah ouais ? Mais alors, vous seriez passé dans une faille spatio-temporelle ?
Une quoi ?
Vous avez voyagé dans le temps ?
Oui, ça m'est arrivé. Une fois, je suis allé chez ma cousine à Châteauroux.
Non, non, en fait, ce que veut dire le prez, c'est que vous êtes passé dans un autre espace-temps.
Un autre quoi ?
Mais c'était qui alors dans le cercueil ?
Mais dans le quoi ?
Dans le cercueil, celui qui a descendu les Champs-Élysées jusqu'à l'église de la Madeleine. C'était pas vous du coup ?
Ah bah non, moi j'étais à la pêche, au thon, à la bourboule. Et comme j'en attrapais rien...
Tu m'étonnes, des tons dans la Dordogne, n'importe quoi.
Je suis allé prendre un verre à la pétaude il y a un moment, j'étais au water, et là, et bon.
Bong ou bing?
Mais non, bon. Après, je me suis retrouvé derrière des barreaux. Derrière des barreaux, pour quelques mots...
Ah, je ne suis pas sûr que le moment soit bon bien choisi pour chanter, hein.
Dehors, il fait chaud.
Ah, j'adore cette chanson.
Ah non, Chicken, ne l'encourage pas.
Sans effort.
Les portes du pays.
Ah là là là, c'est même pas la même chanson.
Bientôt vont se refermer.
La loi du plus fort.
Et c'est là que je finirai ma vie. Comme d'autres gars l'ont fini.
Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous croyez où? Au palais omnisport de Bustruc? Si vous n'arrêtez pas immédiatement, on vous bouffe, c'est compris?
C'est pas ce que vous aviez prévu de toute façon?
Que oui, mais on vous bouffe tout de suite, au lieu d'attendre l'heure du goûter. Alors fermez-la!
Bon sang, j'ai pas du tout envie d'être bouffé.
Et moi donc?
En plus, maintenant on n'a qu'un seul corps pour deux. Alors s'il te bouffe, il me bouffe par la même occasion.
Et vice-versa.
Sauf s'il commence par la tête.
Quoi?
Mettons, par exemple, que ce soit... Le genre de cannibale de l'espace a grignoté la cervelle de leurs prisonniers, histoire de s'ouvrir l'appétit. Un peu comme des amuse-gueules, si tu veux.
Tu compares ma cervelle à des gâteaux apéritifs?
Non, c'est une image. De toute façon, tu risques rien, t'as goût de vieux pied.
Non, attends, Chicken, je disais ça comme ça. Je ne crois pas du tout que la patronne ait goût de vieux pied.
Qu'est-ce que t'en sais?
Bah, j'en sais rien, mais en plus, je suis sûr qu'il y a des pieds qui ont un goût, mais délicieux.
Ah, c'est possible, si tu mets du ketchup dessus.
Oui, ou de la sauce béarnaise. C'est bon, ça, la sauce béarnaise?
Non, mais vous déconnez ou quoi? Mais c'est quoi, cette discussion?
Ben quoi? T'aimes pas la sauce béarnaise?
Mais c'est pas la question!
Ah, c'est le ketchup, alors que t'aimes pas.
Mais peu importe! Ah, mais par contre, arrête de tourner la tête quand tu me parles! À chaque fois, tu mets ta langue, là, dans mon oreille, là, et c'est super désagréable.
Ah, excuse, j'ai pas fait exprès.
En plus, elle est toute moite, et flasque, oh, c'est horrible!
Bah, c'est toi qui prends toute la place aussi avec ta grosse tête.
Quoi? Bah, pas du tout, j'ai pas une grosse tête.
Si, elle est énorme. Quand ils vont te bouffer la cervelle, j'espère qu'ils ont prévu plusieurs pots de sauce béarnaise. Parce qu'elle doit être gigantesque, vu la taille de ta tête.
Bah, ce qui est bon aussi avec la béarnaise, c'est le thon. Au secours, au secours! Le patron est en train de s'étouffer! Il a avalé un choc à pix de travers!
Un choc à pix? Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Mais vous ne connaissez pas les chocs à pix? C'est succulent pourtant, c'est des petits schlubiks grillés, recouverts d'un enrobage de cooking. Il faut que vous goûtiez ça à l'occasion.
Et donc il en avalait un de travers.
Qui ça?
Bah votre copain là.
Oh oui putain, au secours, le patron est en train de s'étouffer, il avalait un chocapice de travers.
Laissez-moi sortir, j'ai mon brevet de secourisme.
Bah vite, suivez-moi.
Depuis quand tu as ton brevet de secourisme toi?
Ouais, chut, je ne l'ai pas vraiment. Mais pendant que je serai en train de faire semblant de le sauver, vous pourrez vous précipiter dans l'appareil de téléportation et rentrer sur Terre.
Bien joué, le prez. Mais tu nous rejoins, hein, parce que moi, en 30 ans de radio, je n'ai jamais abandonné un gars sur le terrain. Tu m'entends? Jamais.
De quoi? Un gras sur le terrain?
Non, un gars sur le terrain.
Un granule du terrain?
Non, un gars sur le terrain.
Une garbure en mie de pain?
Un gars, putain, mais un gars sur le terrain. Mais t'es sourd ou quoi?
Magnez-vous, bon sang, le patron veut y passer, il est déjà tout rose.
Laissez-moi sortir, non, merde, ça, je l'ai déjà dit. Pas de panique, j'arrive.
Ne vous inquiétez pas, patron, hein, on va vous tirer de là.
Ah ok, je vois ce que c'est, ce poulpe extraterrestre est en train de s'étouffer, il a dû avaler quelque chose de travers.
Mais oui, un chocapix, je l'ai dit tout à l'heure.
Ouais, ok, il faut lui faire du bouche à bouche, poussez-vous de là, vous.
Vous êtes sûr que...
Ouais, laissez-moi faire.
Mais je ne crois pas que...
Quoi?
Vous vous trompez de côté?
Hein?
Sa bouche, elle est de l'autre extrémité.
De quoi?
Là, vous êtes en train de lui souffler dans le...
Dans le quoi?
Mais vous soufflez trop fort! Vous le gonflez comme une bouée de canard! Arrêtez, mon corps! Il va exploser!
Amène-toi, le prêtre. On est prêt à partir.
Bravo! Tu nous as sauvé la vie!
Alors, je te fais pas un câlin parce que t'es couvert de tripes de martiens dégoulinantes et super répugnantes. Hein, mais c'est vraiment pas l'envie qui m'en manque.
Allez les amis, on rentre à la maison.
Quelques millièmes de seconde plus tard.
Ah, rien de tel que le plancher des vaches.
Oh, dis donc, c'est la grosse bamboche à la pétaudière.
Ouais, je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils ont l'air en forme, hein.
Notre tour peut-être.
Bon, permets-moi d'en douter. Allez, venez, on va retrouver Bido.
Et vous savez où est Bido?
Qui ça?
Bido.
On ne connaît pas.
Mais qu'est-ce qui se passe ici?
En fait, la victoire de Mitterrand.
De qui?
De François Mitterrand.
François Mitterrand est élu président de la République.
Il vient d'être élu président de la République, mais vous n'êtes pas au courant?
Mitterrand, président.
Valéry Giscard d'Estaing, 48,3%.
La Bourboule parano. Le feuilleton, mais d'une béton.
Voilà, c'est la fin de cette émission, une émission qui sera rediffusée mardi 1er juillet à 18h et elle sera également réécoutable sur notre plateforme podcast-radiobeton.com ainsi que sur les principaux sites de podcast. On vous souhaite de bonnes vacances, tranquilles, au bord de l'eau, avec un bon bouquin.
Des poches sous les yeux, l'émission. Ça